Elle les confronte pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour, vous êtes bien en direct sur Radio Panique 105.4, l'émission de Vie Féminine Bruxelles, elles en parlent encore. Et aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière dont on est vraiment très fiers. Notre collègue Alexandra Kundrat a sorti son premier livre qui s'appelle Naissance. Et voilà, on est très fiers de prendre le temps d'en parler avec vous cette heure-ci, surtout que ça paraît peut-être du favoritisme, du chauvinisme ou Dieu sait quoi, mais moi j'ai trouvé ce livre vraiment génial. Voilà.
Donc. Bon, merci Hélène d'abord, et puis bonjour à tous et à toutes. Je suis moi aussi très heureuse d'être dans cette émission en tant qu'invitée. C'est vraiment un plaisir et je me réjouis de passer cette heure avec vous et avec toi Hélène.
Voilà, ce sera un plaisir partagé. Donc, quand on fait une émission, ça se déroule par étapes. Et donc, bien sûr, je pense qu'il est temps que tu te présentes déjà.
Voilà, donc je suis Alexandra Kundrat, comme vous l'avez entendu. J'ai 37  ans, que dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Je viens de sortir donc ce livre... Et parce que j'aime écrire aussi depuis que je suis petite, donc ça c'est important. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Je suis aussi traductrice de formation et je me suis reformée à la relation d'aide, donc je me suis reformée à la pratique de la médiation. Je suis donc médiatrice. Et voilà, je pense que c'est assez pour l'instant. On verra par la suite.
Oui, je pense que de toute façon, parler de ce livre, c'est un peu parler de toi, de tout un cheminement. Et on va en savoir beaucoup plus sur toi après. Moi, ma première question, en fait, c'est par rapport au processus d'écriture. Parce que, on va le découvrir au fur et à mesure de l'émission, ce livre est particulier. Et je me disais, tiens, écrire, ça représente quoi pour toi?
Beaucoup de choses. D'abord, comme j'ai dit, donc j'écris depuis que je suis petite et c'est quelque chose qui est en moi, qui est instinctif, qui est dans mon ventre, j'ai envie de dire, pour prendre une image qui me parle. Et c'est venu, c'était un besoin vital. Je dirais que c'est un peu comme une colonne vertébrale. Quelque chose qui me tient en vie, qui me tient centrée, et donc que je développe de plus en plus parce que je laisse épanouir cette richesse en moi de plus en plus. Voilà.
Chouette. Et je sais que tu n'as pas que cette richesse-là aussi, parce que tu fais des photos, enfin tu es vraiment dans une recherche artistique un peu complète.
Oui. Oui, la photo, c'est... Là, je crois que j'ai commencé à prendre des photos quand j'avais 19-20 ans. Bien sûr, c'est un peu quelque chose que je développe comme ça en parallèle et où je sens que c'est moins ancré que l'écriture. Je me sens moins sûre de moi à ce niveau-là aussi. Et je fais aussi des photos de manière intuitive et en amateur totalement. Mais j'aime bien, voilà, je prends beaucoup de plaisir et c'est pour ça que j'ai envie de continuer, de les partager. Et oui, ça se complète, c'est complémentaire, oui.
Et alors quand même une question que j'avais envie de te poser, moi je connais un petit peu la réponse, mais est-ce que pour toi l'écriture de ce livre, ça correspondait à un processus thérapeutique? Est-ce qu'on peut dire que c'est ça? Ou c'est une démarche purement artistique?
Mais c'est les deux, c'est un espèce de double mouvement, c'est-à-dire que à la fois c'est tout un processus thérapeutique qui a fait que j'ai pu aller rechercher cette richesse de l'écriture et la développer, et que sans ce processus thérapeutique, cette écriture, elle serait peut-être restée à la marge et j'aurais pas pu sortir, parce que quand on écrit, ça sort des profondeurs de soi, de ses tripes, et donc si on n'a pas accès à toute cette richesse, comme ce qui était mon cas, que j'avais plus, on en parlera après, mais que j'y avais plus et pas du tout accès, en tout cas très peu, c'est le processus thérapeutique qui a aidé à ce que cette richesse, cette écriture puisse émerger. Mais en même temps, le fait d'écrire, c'est aussi, il y a un côté, voilà, c'est pour ça que je dis c'est artistique, et en même temps, il y a un côté thérapeutique, il y a un côté qui aide, écrire me soulage, me libère, m'apaise. Donc, ça va dans les deux sens. Les deux sont interconnectés. Mais comme l'écriture est vraiment en moi depuis très longtemps, pour moi, le côté artistique est aussi très, très important. C'est pas uniquement le fait d'être dans un processus thérapeutique qui a fait que tout d'un coup, je me suis dit, je vais me mettre à écrire. C'était là bien avant. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur ce double mouvement. Voilà.
D'accord. Alors aussi, donc on écrit un livre, ça prend un temps certain, et puis vient le moment de la recherche d'une maison d'édition. Mmh. Comment ça s'est passé pour toi ?
Le parcours du combattant, mais je crois que beaucoup d'auteurs connaissent ça, parce que c'est pas évident de se faire éditer, de trouver une maison d'édition, on sait que... Voilà, pour 95% des auteurs, c'est vraiment très, très difficile. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à envoyer mon manuscrit, d'abord le faire lire par des personnes autour de moi, tenir compte des avis des uns et des autres en restant en moi, et puis l'envoyer aux premières maisons d'édition. Alors, c'est vrai que j'avais envie de faire les grosses maisons d'édition françaises, Gallimard, Grasset, Albin Michel, enfin... Vraiment, ça représente un peu une espèce de rêve comme ça quand on ne s'est pas encore fait éditer. Et donc j'étais à Paris avec j'en ai fait 5 et j'ai pris mes manuscrits sous le bras, j'ai été les déposer. Comme ça, je me dis, en même temps, je voyais le contexte, c'était une manière de rendre ça moins abstrait et, mm-hmm. Et de frotter à la réalité déjà. Donc, et pour moi, c'était un rêve en fait d'aller là déposer ces manuscrits. Et puis après, ben voilà. Mais je m'y attendais. On reçoit des lettres, des courriers standards disant que le manuscrit ne correspond pas à la ligne éditoriale. Bon, tout ça, je m'y attendais. Moi, j'y croyais, donc je n'avais pas envie de me laisser décourager. Donc j'ai continué. Et puis je suis tombée sur une maison d'édition franco-belge à qui j'ai envoyé mon manuscrit par email et qui m'a rappelé le lendemain en disant « Ah, génial !» Donc là, j'étais vraiment toute folle, je me dis « Ça y est, c'est chouette !» Mais il se trouve que cette maison d'édition éditait beaucoup surtout des témoignages. Et quand je suis arrivée là, j'ai dit « Moi, ben voilà, oui, je témoigne de quelque chose de mon vécu, mais c'est un roman et je tiens à ça, j'ai pas envie de changer ça. » Et au début, c'est vrai que la maison d'édition a essayé je trouve plus mes mots. J'avais envie de dire ménager la chèvre et le chou dans le sens où
il
me laissait croire, voilà, que c'était possible en me disant vous pouvez, en essayant de m'amener vers l'endroit où il voulait m'amener. Est-ce que vous pourriez modifier ça ? Est-ce que vous pourriez modifier ça ? Et bon, comme c'était des professionnels et que j'avais envie d'être édité, j'ai tenu compte d'un certain nombre de choses. J'ai évolué sur un certain nombre de choses. J'ai rajouté pas mal de pages. Mais il y a des choses sur lesquelles j'ai pas voulu céder. Parce que c'est vrai qu'ils essayaient d'aller me faire dans le sens d'un témoignage, ce que je voulais pas faire. Et donc, on parlera après du procédé stylistique. Mais c'est vrai que, voilà, écrire tout en jeu, pour moi, c'était pas possible. Et donc, à la fin de tout ce travail, au bout de près d'un an de travail, ils m'ont dit, bon, ben, voilà, ou vous changez et vous enlevez tout ce qui est du roman, ou on vous publie pas. Bon, ben, évidemment, je suis tombée quand même un peu dénue, j'ai un peu mal pris. En même temps, je m'en doutais parce que j'avais toujours vu le sens vers lequel ils voulaient m'amener. Et j'ai dit non. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, il y a une déception. Je me suis dit, je reprends depuis le début, je ne me décourage pas, je refais d'autres maisons d'édition, je réenvoie. Et puis, j'ai envoyé aux éditions Chloé Delis et j'ai eu la grande joie qu'ils m'ont accepté. Et c'est vrai que les éditions Chloé Delis, c'est une maison d'édition un peu particulière, qui est composée essentiellement de bénévoles. Mais moi, je trouve que ce sont des gens qui comprennent en fait que les auteurs ont parfois envie d'être éditer comme ils le souhaitent et pas d'être modifiés à tout prix. Il y en a à qui ça ne dérange pas que l'œuvre soit modifiée, qui sont très contents comme ça. Il y en a pour qui c'est peut-être nécessaire. Et moi, je peux reconnaître aussi ce que la précédente maison d'édition m'a apporté. Mais en même temps, pour moi, se faire éditer et que l'œuvre ne soit complètement, ne ressemble plus à ce que j'ai écrit et à qui je suis, ça n'avait pas d'intérêt. Donc, les éditions Chloé Delis m'ont laissé carte blanche sur le contenu. Et en même temps, m'ont renvoyé un feedback positif, parce qu'il y a un comité de lecture, et si le feedback avait été négatif, si c'était vraiment mauvais, ils n'auraient pas accepté non plus. Donc, c'est pas pour dire on laisse passer tout le monde, et voilà. Et sur la forme aussi, voilà. Je me souviens que la précédente maison d'édition m'avait dit le titre, ça va pas. Ils m'auraient imposé un titre, ils m'auraient imposé une couverture, alors que là, j'ai pu tout choisir. Et donc, pour moi, c'est vraiment une grande joie et une fierté d'avoir pu que ce livre soit vraiment à mon image.
Voilà.
Long développement. Mais...
Oui, pour tout ça aussi, parce que je trouvais que par rapport comment dire, c'était pas sans lien avec ce qui arrivait à ton personnage de chercher à être connu, à imposer sa façon d'être. Et donc, je trouvais ça. Amusant, c'est amusant. Je trouvais qu'il y avait un parallèle, en tout cas, entre cette recherche d'une maison d'édition, les réponses qui venaient, l'envie de modifier, enfin, la nécessité de modifier pour la maison d'édition pour être acceptée, et non, cette volonté de quand même être soi et d'imposer, ça ressemble un peu à ce qu'il y a, enfin,
ben oui.
Au cheminement de ton personnage. Et donc, c'était pour ça que je voulais te faire parler de ça un petit peu.
Mais c'est vrai. C'est vrai, donc pour moi, ça n'aurait pas eu de sens de modifier ça, voilà, comme il le souhaitait, et de faire ces concessions-là.
Ok, alors on va bientôt s'attaquer vraiment au livre en lui-même, hein, mais on va d'abord faire une première pause musicale, et puis c'est un morceau d'Alain Souchon, et justement Alain Souchon, on le trouve un tout petit peu dans le livre, c'était un morceau qui accompagne...
Voilà, c'est un morceau qui se trouve dans le livre... Et donc, c'est un morceau que j'adore, voilà.
À tout de suite. Naissance, Alexandra Kudrat. Comment vivre quand on est mort très tôt, quand on tâtonne dans le noir? Comment être femme quand on nous a volé le droit d'être une fille? Comment apprendre à désirer? Comment vivre sa sexualité de femme? Comment vivre ses relations avec les autres, avec les hommes? Un jour lointain de mon histoire, je ne peux dire précisément lequel, ma vie s'éternit d'un coup et je me suis retrouvée dans une enveloppe morte. Disparue la conscience et la beauté de pouvoir me vivre en tant qu'être sexué. À partir de ce moment-là, je me suis éteinte et j'ai oublié jusqu'à la moindre trace de ce qui s'était passé. Voilà, vous êtes en direct sur Radio Panique et puis on parle du livre d'Alexandra Kudrat, Naissance. Et on partage avec vous, là, maintenant, le plaisir qu'on a eu à découvrir ce livre. Ah, pourquoi est-ce que j'ai bien aimé le livre? Bon, c'est vrai, il y a des choses qui sont plus personnelles, parce que c'était amusant de lire le livre qu'une amie avait écrit, c'était amusant de retrouver des choses qu'on pense deviner, qu'on pense savoir, qu'on pense pouvoir placer. Ça, c'était vraiment très amusant. Mais il n'y avait pas que ça, en fait. Moi, j'ai aimé l'histoire, d'abord, parce qu'il y a vraiment une histoire. Il y a une personnage forte, Laurence. Il y a d'autres personnages qui sont tout aussi forts, surtout Loïc. Mm-hmm. Et puis on voit ces personnages se débattre dans leur vie quotidienne, qui n'est pas si simple que ça, voilà. Mm-hmm. Moi, j'ai aimé donc faire un petit bout de chemin avec Laurence. J'ai été étonnée de voir qu'on pouvait faire un petit bout de chemin avec Loïc. Tu décrivais quand même ces interrogations, ces questions que tu essayais de comprendre aussi.
Ouais.
Et ça m'a, en tant que lectrice, ça m'a surpris. On a l'habitude, enfin moi, je crois que j'ai eu l'habitude, puis quand je lis, d'avoir qu'un point de vue. Et puis là, tout d'un coup, tu passais de l'un à l'autre. Je l'ai aimé parce qu'il y avait des thèmes qui m'étaient propres, qui m'étaient chers, qui étaient un tout petit peu développés. verra ça après. Et puis, j'ai bien aimé le processus narratif aussi. Voilà, celui que la première maison d'édition n'aimait pas. Et ben moi, ça m'a plu. Enfin voilà, je l'ai mis pour moi le je, le elle et puis le nous. Enfin ou voilà, c'est t'as des parties que tu écris, mais on va en parler justement de ça en je et en italique souvent. Oui. Et puis il y a des parties où c'est vraiment Laurence et que c'est clair là-dessus.
Oui.
Et puis le nous, c'est plutôt tu fais vraiment référence à certains moments à des choses qui sont extérieures à l'histoire,
oui.
À des éléments théoriques,
juridiques,
enfin voilà. Mm. Et non, moi ça m'a amusé, ça va et vient en fait.
Mm. Voilà. Merci. Ben oui, je suis contente effectivement parce que c'était le but, c'était le but recherché. Mais non seulement c'était le but, mais en même temps c'est tout un processus dans le sens où pour moi c'était indispensable de le faire comme ça. Donc ça s'est imposé de soi-même. J'ai pas réfléchi. Pas quelque chose de pensé à l'avance. Tiens, est-ce que je serais bien en elle? Est-ce que je serais bien en je? Comment je vais faire? Tel chapitre, ça va être comme ça. Non, c'est une écriture intuitive où la nécessité de mettre le elle pour... Il y a des romans qui sont en je, hein, donc je peux même pas dire que c'est pour faire un roman que j'ai mis en elle. Oui, sans doute que ça fait partie, mais en même temps, ça s'est imposé pour mettre une distance, puisque justement, comme tu le dis, il y a des thèmes qui sont sensibles, et cette distance avec le L, elle était nécessaire, et en même temps, cette distance, elle me permettait d'introduire le lui aussi, parce que si on écrit en jeu, bon oui, j'aurais pu... mettre tout en jeu, y compris mettre la partie qui concerne Loïc en jeu. Mais je pense que comme j'étais partie de l'idée que ce elle, il m'était nécessaire, il m'était indispensable, et c'est ça que je me dis, cette première maison d'édition, bah, elle est passée complètement à côté pour des raisons de marketing, parce que ce que moi j'avais envie de leur crier, c'est oui, mais vous savez, moi c'est impossible d'écrire tout en jeu. Pour moi, c'est pas possible parce que il y a quelque chose dans ce sujet sensible qui fait qu'écrire tout en jeu, c'est quelque chose de trop difficile.
Et est-ce que Laurence t'a permis d'écrire des choses que tu n'aurais pas écrites?
Exactement, voilà. Mais t'as dit ce que je pensais et que j'essayais de te dire en d'autres mots. Mais c'est exactement ça. C'est que si je n'étais pas passée par ce « elle » et par Laurence, jamais j'aurais pu écrire des ressentis qui me sont propres, puisque... Il y a deux mois dans ce livre, bien sûr, jamais j'aurais pu. Donc, c'est là que je me suis dit après, mais cette maison d'édition, ils n'ont rien compris. Mais bon, c'est normal, ils ne sont pas formés, ils sont des éditeurs, ils veulent rentabiliser. Tout ça, je peux comprendre, mais effectivement. Et puis aussi, le sujet est sensible et difficile à comprendre par tout un chacun, ça je suis bien d'accord. Voilà, ils ont fait passer le truc en me disant nous vous permettons aussi de témoigner de quelque chose et donc de que ce soit thérapeutique pour vous. Enfin, c'était en quelque sorte ce qu'ils induisaient, enfin ce que moi j'ai peut-être interprété, mais comme ça que moi je l'ai vécu. Et en même temps, ce qui était thérapeutique, c'était justement ce processus narratif pour moi. Donc ça n'avait pas de sens de me faire retomber dans quelque chose, dans une case où j'aurais été une moitié de moi, alors que justement ce processus me permettait d'avoir accès et d'exprimer des choses que j'aurais pas pu faire sinon. Voilà. J'espère que je suis claire.
Oui, et puis on est claire sans trop en dire, c'est ça qui dit. Parce qu'il faudrait quand même que nos auditeurs aient envie de découvrir l'histoire de Laurence.
Voilà, ouais, c'est sûr qu'on ne va pas tout raconter, mais bon, voilà, il y a des choses dont on va parler quand même.
Voilà. Et donc, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'en fait, il y a quand même quelques pages de notes, fin, de d'explications à la fin. Aussi.
Oui.
Et du coup, on a les armes pour à la fois rentrer vraiment dans ce roman, et les hommes pour aller chercher ce qui aurait vraiment trop alourdi de mettre comme référence théorie juridique et tout.
Exactement, mais c'est comme ça aussi que je... Ça peut se lire comme on veut, ça peut se lire sans lire les notes, parce que ça se lit, c'est voulu d'être écrit donc comme un roman qui se lit comme ça pour le plaisir de lire, et puis si on a envie de voir un peu plus loin, il y a des références, et pour moi ces références elles sont évidemment très importantes, mais donc voilà, le lecteur a le choix, après moi je parle de ce que je veux concernant ce livre, mais le lecteur a le choix d'en faire sa lecture. À lui ou à elle, ou la lectrice.
Ouais. Toi, d'ailleurs, tu me disais que tu avais eu des retours où les gens avaient vu ton livre de manière très, très différente.
Mais donc oui, je crois que chaque personne lit un livre selon sa propre grille de lecture, ses propres filtres. Et bien sûr, il y a des choses qui reviennent, qui sont communes. Bon, c'est pas non plus que la Terre entière a lu mon livre, hein. Il faut pas dire ça, mais...
Non, c'est juste pour pouvoir dire aussi aux éditeurs ce qu'on peut y trouver.
Oui, voilà. Oui, tout à fait. Voilà, les personnes qui ont lu jusqu'à présent m'ont renvoyé à un feedback différent. Je sais pas si j'ai envie de parler de ce feedback, parce que peut-être que ça induit... Voilà, il y a...
Bon, d'accord, moi j'ai dit le mien, donc c'est pas très
oui,
grave.
Oui, oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des émotions, des sensations, des sentiments. Et il y a quelque chose de plus, de l'ordre de la revendication. Oui, ça c'est sûr. Donc il y a les deux. Mais suivant la grille de lecture, les uns vont voir plus l'un que l'autre.
Mm-hmm.
C'est ce que je me dis. Bon.
Eh bien, moi, je me disais qu'on allait commencer de toute façon à parler justement des thèmes que ce livre aborde. Alors, bon, on est à Elles en parlent encore, l'émission de Vie féminine Bruxelles, une émission qui essaye d'être féministe. Donc, on va commencer effectivement par le thème du féminisme qui est bien présent dans ton livre. Alors, j'ai page 34, hein, voilà. À en entendre certains, la société se serait outrageusement féminisée. Dans la vie de tous les jours, pourtant, nombre de femmes peinent à se faire de se défaire du carcan dans lequel des millénaires de domination masculine les ont enfermées. Dans notre société occidentale encore, des publicitaires s'acharnent à chosifier le corps féminin pour vendre. Statistiquement, les violences envers les femmes sont encore trop nombreuses. D'autre part, certains hommes disent se sentir dépossédés de leur virilité, parce que l'émancipation des femmes leur semble avoir rendu les dites valeurs du féminin omniprésentes et omnipotentes. Les valeurs du masculin sont à réinventer aussi. Nous sommes dans une société en mutation, ils en foutent du temps pour sortir d'un patriarcat qui a fait son temps.
Oui, ben oui.
C'est embêtant que je te lise.
Non, pas du tout. Mais c'est vrai que voilà, c'était important pour moi de mettre ça dans le livre. Parce que je trouve que c'est en lien avec ce que vivent les personnages, et autant Laurence que Loïc, voilà.
Mm-hmm.
Parce que donc pour moi c'était important de prendre un point de vue
dans ce
féminin.
Morceau aussi. Je trouve que dans le morceau que j'ai lu, on voit ça vraiment se balancier. Effectivement, il y a un problème avec les femmes, mais il y a un problème avec les hommes aussi.
Oui, dans le sens où effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne se reconnaissent pas, je le lis dans plein d'articles, et qui ne se reconnaissent plus dans une certaine manière de concevoir la masculinité, ou en tout cas ou la virilité, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, ou un certain rôle assigné aux hommes. Voilà, parlant des rôles, je pense que... C'est délicat, je ne vais pas parler au nom des hommes ni même de ces hommes-là, même si effectivement j'ai fait parler un homme dans mon livre, et ce serait intéressant de voir ce que pensent, si des hommes lisent mon livre, ce qu'ils pensent de ça. Voilà. Mais je pense qu'effectivement c'est toute la société qui gagnerait, et c'est ça que j'ai voulu exprimer, à ce que ces stéréotypes, ces rôles soient moins enfermant, soit plus ouvert et laisse plus de place à la diversité des hommes et des femmes. de chacun, finalement. Mmh. On est chacun différent. Et comme j'entends souvent, une certaine peur d'abolir la différence si on parvenait à l'égalité totale ou si... Enfin, il faut surtout pas oublier que les hommes et les femmes sont différents, mais on est tous différents. De toute manière, il n'y a aucun risque qu'il y ait, qu'il y ait plus de différence. On est différents. Simplement, il me semble que c'est qu'on peut admettre que depuis un certain temps, je ne sais pas le dire, en tout cas depuis plusieurs siècles, les rôles entre les hommes et les femmes sont définis, sont enfermants parce qu'ils ils sont réducteurs. Voilà.
Mmh. Oui, et ça permet de faire le lien avec ton personnage aussi, qui cherche un peu à naître, voilà, mm-hmm. et de naître dans ce qu'elle est elle. Et donc, il y a quand même quelques passages, bon, je les ai pas renotés, mais où on sent qu'elle cherche à se libérer aussi de ce que on pourrait lui imposer en tant que femme. Il y a un petit passage sur l'obligation à un certain âge d'être en couple, d'avoir des enfants et des choses comme ça.
Voilà. Oui, parce que ça, c'est encore quelque chose qui change, mais qui malgré tout reste très présent. C'est que quand on est femme, à partir d'un moment, ce serait bien quand même d'avoir un enfant, parce que sinon... on n'est pas complète. Et beaucoup de femmes le ressentent comme ça. Et on peut se demander quelle est la part de quelque chose que la société impose et un ressenti vraiment interne. Maintenant, le ressenti intérieur n'est pas à nier. Donc ce désir d'enfant très profond chez certaines femmes, pas chez toutes, mais chez certaines femmes, n'est pas à nier. Et c'est ça qui, parfois, justement, est douloureux, c'est qu'il peut avoir ce désir très fort et que pour X raisons, l'enfant n'est pas là. Et la société renvoie à ces femmes-là quelque chose de très négatif, d'incomplet. Malgré tout, c'est encore tabou, même si ça change. Mais, et par contre, il y a des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Et ça aussi, c'est tabou, c'est comment la féminité... ça va pas avec la féminité. Enfin, une femme devrait avoir envie d'avoir un enfant. C'est pas possible. C'est quelque chose qui cloche chez elle. Or non, moi, je trouve qu'il y a des femmes que je respecte tout à fait, qui veulent pas avoir d'enfants et qui le ressentent en elles-mêmes qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants. Et c'est pas qu'elles ont un problème, c'est qu'elles ne sentent pas ce désir-là. Et je trouve que la société, de nouveau, gagne à s'ouvrir à cette diversité. Et ça, c'est quelque chose que Laurence, effectivement, ressent que la pression sociale. La pression sociale qu'elle ressent peut-être d'autant plus fort vu son vécu. Ça, je me dis... parfois, il y a des vécus et des sujets qui sont plus tabous que d'autres et donc qui font que... la société renvoie encore plus de honte et de culpabilité. Je crois que le thème dont ça traite, peut-être qu'on va le dire maintenant.
Oui, je vais y aller. On est presque aux deux tiers d'émission, il est quand même temps.
Voilà, donc, ce livre a en fil rouge le thème de l'inceste, les crimes d'inceste, donc les abus sexuels commis contre les mineurs. Et effectivement, Laurence se débat avec ce vécu-là, qui est un vécu qui est un crime qu'énormément de gens ont vécu. Beaucoup de femmes et des hommes aussi. Et je pense que ce qu'il y a de particulier dans l'inceste, c'est qu'il se... C'est qu'il, enfin, je pense, je suis sûre, c'est l'inceste se trouve... est un crime commis au sein de la famille, sur un enfant. Mmh. C'est ça qui en fait la particularité, les difficultés et le tabou. Donc,
Et donc, dans le livre, on voit Laurence vivre avec ça, batailler avec ça et chercher vraiment à renaître après ça.
Mais renaître, oui,
j'existe, enfin, à un moment donné.
Oui, mais voilà, parce que souvent on me dit renaître, et c'est vrai qu'on a envie de dire c'est une renaissance, mais je l'ai intitulé naissance parce que, en fait, il n'y a pas une vie. La vie a été tellement... Il y a une vie, oui, biologique, mais la vie a été tellement coupée très tôt que... enfin, bon... Là, j'ai envie de parler en jeu parce que, évidemment, j'ai voulu parler de mon vécu à travers ce roman. Donc, je peux dire que j'ai vécu un inceste. J'ai été victime d'un crime d'inceste et que j'ai le sentiment de ne pas avoir eu de vie avant 30 ans, d'être née à 30 ans. Bien sûr, il y a une naissance biologique, mais la caractéristique. De ce crime, c'est que l'enfant se coupe de lui-même, se coupe de ses émotions, de ses sensations. Et sans émotions, sans sensations, il n'y a pas de vie. On n'est pas relié à la vie. C'est vraiment mon ressenti le plus profond, c'est que je suis née à 30 ans.
Mais c'était chouette quand même d'être...
Mais voilà. C'était une belle naissance. Une magnifique naissance, j'en suis très fière.
Tu peux bien. On va revenir sur l'inceste, parce que c'est vrai que c'est une histoire. Ça parle d'un vécu, mais il y a aussi tout un aspect militant que tu as commencé déjà à amener en disant que c'est un crime d'inceste, que c'est... Mais on va revenir là-dessus en dernière partie d'émission et on va faire une deuxième pause musicale.
Voilà, alors c'est Mes Sparrow, c'est un groupe récent et c'est une chanson en fait qui me donne des frissons, beaucoup d'émotions et de sensations, c'est pour ça que j'ai choisi. À tout de suite.
La première difficulté à laquelle sont confrontées les victimes qui témoignent ici est la suivante. Comment raconter une histoire lorsque les souvenirs oscillent et échappent à toute mise en parole? Les symptômes, les cauchemars, les flashbacks parlent à la place du sujet. Mais à défaut de témoins directs, sont-ils des souvenirs capables de se hisser au rang de témoins dits indirects? Mémoire incertaine, identité équivoque, vie à jamais suspendue dans l'angoisse permanente qui condamne celui qui succombe avant même la possibilité d'un jugement. Le paradoxe de la mémoire traumatique tient à sa résistance de devenir une véritable mémoire capable d'engendrer le récit. Cette résistance se montre sous un visage contradictoire, soit une amnésie psychogène ou une obstruction complète, soit une reviviscente oppressante. L'entreprise de remémoration s'échoue alors constamment sur les écueils d'une mère inconsciente. Voilà, c'était... une façon de se remettre dans le bain et de commencer un petit peu à aborder vraiment le cœur du livre, en tout cas dans son sujet, pas dans sa forme narrative, pas dans le plaisir qu'on a à cheminer avec les personnages. Et donc effectivement, cette mémoire traumatique, moi c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Maintenant je commence à m'en inquiéter, à lire, mais donc je voudrais... Tu nous en parles. C'est quoi une mémoire traumatique? Comment ça s'est... Je dirais comment dans le livre, elle est présentée et voilà.
Voilà. Mais d'abord, je voudrais dire que l'extrait donc, que tu viens de lire se trouve dans le livre et qu'il est... c'est pas moi qui ai écrit ça, donc ça je crois qu'il est précisé. Je cite une auteure qui a écrit un livre sur l'inceste et qui est une psychanalyste française, voilà, Jen Yupeng. Et je m'appuie sur effectivement certains passages où elle parle et d'autres auteurs aussi qui parlent des séquelles et de comment le cerveau réagit à une agression aussi forte que celle-là. Parce que donc, ce sont des agressions pour l'enfant insupportables, puisque tous les repères sont bousculés, puisqu'un parent qui devait être protecteur et aimant se montre tout d'un coup intrusif et destructeur. Et il y a quelque chose d'inacceptable, d'innommable même pour l'enfant, et qui tout de suite, évidemment, va se culpabiliser et s'attribuer, donc de se sentir coupable et honteux,
puisque pour lui, c'est inconcevable que son parent le trahisse comme ça. Donc, c'est lui ou elle qui ressent de la honte et qui se sent coupable. Et comme c'est insupportable et que l'enfant ne peut pas y échapper parce qu'il n'a pas le choix, quand bien même il voudrait se débattre, quand bien même il essaierait de lutter, le parent, et c'est bien normal, est plus fort. Eh bien, pour continuer à vivre, pour ne pas mourir, ça se fait automatiquement. C'est un processus, je ne suis pas scientifique, mais j'ai presque envie de dire chimique, oui, quelque chose qui se passe dans le cerveau, qui fait que... Il y a quelque chose qui disjoncte et qui remise tous les souvenirs, que ce soit les souvenirs, donc des souvenirs en, visuels ou des souvenirs émotionnels et sensitifs, ce qui a trait aux émotions au corps. Tout ça est mis dans un coin du cerveau, dans une mémoire qu'on appelle mémoire traumatique, et refoulée. Et donc, l'enfant n'y a plus accès. Et ça lui permet de grandir. Ça se passe comme ça dans beaucoup de cas. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pas rare, inhabituel. Voilà. C'est quelque chose de fréquent. Et la psychiatre Muriel Salmona en parle très bien aussi. Enfin, elle en parle mieux que moi parce qu'elle est scientifique. Moi, j'en parle avec mes mots. Donc, ça se met dans un coin du cerveau, l'enfant n'y a plus accès. Et ce qui fait qu'il grandit amputé de toute une partie de sa vie, justement, comme on disait, les émotions, les sensations, et que tous les liens et tout ce qu'il va développer par la suite sera influencé par cette mémoire qui est dans un coin. Alors, c'est sûr que chacun de nous, on refoule plus ou moins certaines choses, des choses qu'on oublie, enfin, on filtre de toute manière. Mais là, c'est tellement particulier et tellement fort, puisque c'est tous des souvenirs liés à quelque chose de vital, une sorte de pulsion vitale, comme toi, tout d'un coup, qui est niée, que c'est... Il y a moyen de... Si on est... On va tomber, soit on va être dans une anesthésie. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. On est dans une anesthésie où on grandit comme ça, pas du tout ancré et complètement. Alors, on développe une autre partie du cerveau qui nous permet de grandir, mais qui n'est pas fondée sur. Sur la réalité, ce qui n'est pas en prise avec vraiment le réel et sur des bonnes bases. Ou alors, parce que ça s'appelle aussi la dissociation. Et c'est pour ça que le je et le elle ont aussi un sens là-dedans. C'est que quand on subit une agression comme ça, on se voit de l'extérieur. C'est difficile à expliquer, ça se trouve dans beaucoup de livres.
Oui, moi j'ai un peu lu maintenant, du coup, je peux dire. Donc, effectivement... Muriel Salmonena, elle dit bah oui, il y a danger de mort. Pour l'enfant, c'est vécu comme ça, c'est un danger de mort. Et donc, il y a une réaction où, on sort de ce qu'on est vraiment. On ne sent plus ni les émotions, ni même la douleur physique.
Enfin, tout à fait.
Donc, voilà. Et tout ça est mis hors d'accès. Et puis, effectivement, ce mécanisme. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est réactivé, ce n'est pas activé qu'une fois, c'est activé plein de fois en grandissant.
Voilà, mais c'est-à-dire qu'il y a des éléments, parce que tu dis c'est activé plein de fois, mais non, parfois le refoulement peut durer des années, et d'ailleurs c'est même très fréquent qu'il dure des années, parfois 20, parfois 30 ans, avec... la personne qui n'a pas accès à cette mémoire traumatique et qui donc va effectivement rentrer dans des conduites qu'on appelle dissociantes, va se droguer, va tenter de se suicider, va se mutiler, ou va pas du tout avoir accès à certaines parties vitales, donc des tas de problèmes au niveau de la sexualité, des problèmes dans les liens avec les autres, des problèmes d'estime de soi, de confiance en soi, tout ça parce qu'il y a eu une agression terrible qui forcément, comme je l'ai dit, a induit de la culpabilité et de la honte. Et donc la personne ne sait pas pourquoi elle est comme ça, elle n'a pas accès, elle ne sait pas que c'est parce qu'elle a été victime d'une agression. Et puis tout d'un coup, il y a
quelque chose dans la vie de la personne, un événement qui fait ressurgir cette mémoire et qui, tout d'un coup, elle se libère. Mais comme elle a été retenue comme ça, comme quelque chose qui se retient pendant des années, ça boue, enfin, voilà, c'est une image. Et puis tout d'un coup, quelque chose vient réactiver ce truc et paf, ça éclate. Et là, toutes les émotions, toutes les sensations, en une fois, sortent. Et c'est la même terreur, c'est le même danger de mort. Et c'est vrai que souvent, alors on dit aux victimes... la société, l'entourage ne comprend pas, mais c'est quoi ça, qu'est-ce que c'est que cette personne-là, elle va mal, elle est perturbée, et parfois, voilà, c'est comme ça que parfois des victimes d'inceste se retrouvent il ne s'agit pas de porter un jugement, une généralité, parce qu'il y a aussi des victimes d'inceste qui vont trouver que c'est bien pour elles d'aller faire un séjour en hôpital psychiatrique parce qu'elles ont besoin de ça, ou bien parfois ça peut être justifié aussi. Mais disons que la réaction de la société va être cette personne est perturbée, elle doit, on va lui donner des médicaments. Parce que, en tant que thérapeute, il faut aussi pouvoir entendre cette parole. Et tout le monde n'est pas capable d'entendre cette parole parce que ça renvoie à quelque chose de très profond, d'une négation de l'être, tellement profond. Et donc, certains thérapeutes vont accueillir cette parole bienveillante, ce qui a été mon cas, et vont permettre à la personne de se reconstruire, et d'autres vont nier complètement cette parole-là. Voilà. Donc là,
Oui, ça pourrait paraître comme quelque chose de psychotique, comme un délire, comme
exactement. Voilà. Et donc, parce qu'il y a ce phénomène de dissociation qui est une réaction de survie, mais qui n'est en aucun cas qui peut en aucun cas être assimilée à une psychose, à quelqu'un qui serait psychotique. Maintenant, chaque personne vit les choses aussi, même s'il y a beaucoup de symptômes communs à sa manière. Et donc, évidemment, il appartient au thérapeute aussi j'aime pas le mot diagnostic, mais de faire un diagnostic et selon la personne. Mais pour moi, et peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont vécu un inceste et qui vont aussi être psychotiques. Ça, c'est
bien sûr.
On va pas, mais on peut pas en faire une généralité. En tout cas, on doit tenir compte de ces conduites dissociantes et de cette mémoire traumatique qui sont la conséquence des agressions et qui quand la personne est accueillie dans son vécu. Le travail, c'est que la personne puisse se réassocier. Donc, elle n'est plus dissociée, séparée d'elle-même. Elle se recentre sur elle. Elle redevient une personne dans toute sa richesse et peut réintégrer cette mémoire traumatique qui avait été complètement écartée. Mais bon, ça, c'est un travail qui prend toute une vie, hein, ça.
Oui, et puis cette mémoire traumatique, elle ne s'arrête pas tout de suite. Enfin, c'était aussi une des choses que moi j'ai appris en lisant ton livre et puis en lisant, Muriel Salmonena.
Salmona.
Moi les noms. Enfin bon, bref, c'était pour m'outiller, pour comprendre ton livre, en tout cas pour pouvoir en parler et avec toi. C'est que c'est pas un flashback et puis c'est fini, quoi. C'est que ce truc, quand ça se réactive...
Quand ça se réactive. Là, c'est définitivement... Ça a sauté, donc ça peut se réactiver n'importe quand. Donc, c'est ça qui est difficile.
Et donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui peut faire référence de près ou de loin à ce vécu traumatique,
voilà, hop,
ça, et c'est reparti avec la même intensité.
Exactement. Donc, voilà.
Et donc, moi, je le dis parce que c'est un truc que j'ai découvert, que je n'imaginais pas. Et donc, donc je partage ça avec les auditeurs aussi.
Je vais juste, parce que je vois que le temps avance, et je pense que c'est très important de dire que donc, je parle donc, des éléments juridiques, je parle beaucoup de... J'ai tenu vraiment à parler de la prescription, parce que compte tenu de tout ce que j'ai expliqué, et du fait que les victimes mettent 20, parfois 30 ans à avoir accès à cette mémoire traumatique refoulée bien, bien loin dans leur cerveau, donc pour qu'elles puissent survivre, il est inacceptable qu'il y ait ce délai de prescription de 10 ans, 20 ans après la majorité, ce qui ne tient absolument pas compte des caractéristiques du crime d'inceste. Et donc, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge à ce niveau-là. C'est-à-dire que oui, ça bouge. On a changé en Belgique. C'est plus 10 ans, c'est 15 ans. Mais donc, ce n'est pas suffisant. Et en France, ils voulaient inscrire l'inceste dans le code pénal. Et finalement, ça a été retiré. Et donc, il n'y a rien qui avance. Ça va plutôt dans le sens de c'est complètement retiré. Et bah, de nouveau, ça prouve à quel point c'est tabou et à quel point il y a une volonté de nier, de rester dans un déni. Donc pour moi, ce déni est aussi caractéristique du fait que ces abus se passent dans la famille et que la famille, on n'y touche pas, c'est sacré. Et que ça pourrait remettre bien des choses en question chez les gens s'ils acceptaient d'ouvrir les yeux complètement sur le nombre d'incestes qui sont commis dans les familles. Voilà.
Ben c'est comme les violences faites aux femmes et d'autres choses. C'est d'abord le lieu de violence, c'est la famille et c'est très...
Exactement.
C'est très difficile. J'avais envie de j'espère que je vais le retrouver, de repartir... vers ton livre, parce que quelque part ça fait le lien avec ce que tu disais. Je ne peux m'empêcher de faire le lien avec un système ancestral de domination masculine, puisque dans ma famille paternelle, les hommes étaient dominateurs sur plusieurs générations, comme c'est traditionnellement le cas. Et donc, pouvoir nommer l'inceste et pouvoir rendre l'inceste public, faire sauter ce tabou, c'est en même temps faire tomber, à mon avis, tomber le tabou sur le patriarcat.
Mais pour moi, oui. En tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti dans ma famille, par rapport à la famille paternelle. Parce qu'effectivement, j'ai appris des choses qui fait qu'effectivement, comme c'est traditionnellement le cas, beaucoup d'hommes de génération en génération étaient dominateurs maintenant. Comme je l'ai dit aussi, il y a des hommes qui se reconnaissent plus là-dedans. Mmh. Voilà. Mais le système, il est encore là. Et ça, il faut le dire, quoi. Le système patriarcal, il est encore là.
Et donc, la difficulté d'en parler, cette espèce de tabou, cette espèce de chape de plomb est quand même encore bien là.
Ah oui, ah, ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est vrai que... ça saute petit à petit, pas à pas. Et évidemment, il y a des hommes qui sont victimes d'inceste. Bon, la plupart sont quand même des filles dans les familles. Et de toute façon, la plupart des agresseurs sont des hommes, même s'ils mettent de nouveau. Voilà. Il y a des femmes qui commettent l'inceste aussi. Je pense que c'est important de le dire. Comme j'ai dit, c'est important de dire qu'il y a des hommes qui en sont victimes. Mais en majorité, ce sont beaucoup des filles. Et en majorité, les agresseurs sont beaucoup des hommes. Voilà. Je le répète, mais c'est parce que c'est pas moi qui vais dire quelque chose comme ça, c'est la réalité, tout simplement. Donc, voilà. Oui, voilà. Donc, je voulais... je sais pas si on...
Les cloches sonnent, il est midi.
Il est midi. Donc, j'ai envie de dire aux auditeurs, aux auditrices que si ils ont envie de découvrir mon livre, qu'ils peuvent le commander aux éditions Chloé Delis, sur le site des éditions Chloé Delis. Le commander aussi en librairie. Il se trouve aussi sur chapitre.com. Et j'espère que cette émission vous aura donné envie d'en découvrir plus. J'étais très contente de la faire. Et je ne sais pas si on a le temps de passer ma dernière...
Je voudrais rappeler, ça s'appelle donc Naissance. Toi, tu es Alexandra Kunratz. Et Chloé Delis, je l'appelle quand même parce que moi, je sais que j'avais du mal avec ça. C'est Chloé comme le prénom, D-D-E-S, et Lys comme la fleur. Voilà. Mmh. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Le groupe Elles en parlent encore. On va mettre cette émission sur le site de Radio Panique, comme d'habitude, et celui de Vie Féminine Bruxelles. Et bonne chance à ce livre. Et puis, je sais qu'il y a un deuxième. Et donc,
il y a un deuxième.
Ça y est, tu es auteur.
Tu es auteur. Bel et bien auteur. Voilà.
Dimanche.
Au revoir.
Elle les confronte pour aller à votre rencontre. Yeah. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.